Il y avait une femme qui était venue me voir, qui avait des difficultés avec la mère de son mari, sa belle-mère. C'est assez banal. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que nous vénérons la Vierge Marie ? C'est le terme exact. Nous la vénérons. Nous adorons Dieu. Nous vénérons, il y a un culte de la Vierge Marie des Saints. Nous la vénérons. Et elle m'a répondu, c'est pour ça que je vous raconte ça, avec la phrase de l'évangile de ce jour. Elle m'a dit, c'est parce que Marie gardait tout cela dans son cœur. Non. J'ai dit non. C'est pas pour ça. Alors elle a cherché, elle a énuméré des qualités de la Vierge Marie. Elle m'a dit, c'est parce que c'est un modèle d'humilité. Non. Non, c'est pas pour ça. Pourquoi est-ce que nous vénérons la Vierge Marie ? Parce qu'elle est la mère du Sauveur. Voilà l'unique raison spécifiquement catholique de vénérer Marie, son fils. N'empêche pas de lui reconnaître toutes sortes de qualités. Mais en réalité, si nous vénérons la Vierge Marie, c'est parce qu'elle est la mère de Dieu. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et j'ai ajouté pour cette femme, je lui ai dit, n'oubliez jamais que votre belle-mère est la mère de votre mari. Vous aimez votre mari, je le savais, et cela suffit. Le reste, c'est de la morale. C'est nécessaire, mais c'est secondaire. Une mère porte sur son enfant un triple regard. Elle le regarde d'abord avec un amour, une tendresse, une indulgence, quoi qu'en pense l'enfant, une indulgence infinie. Et c'est sa mission principale, c'est la mission première des parents, c'est de donner confiance en leurs enfants, en leur enfant. Et d'où vient la plus grande part de la confiance en soi ? De l'amour que nous avons reçu quand on était petit, à commencer par nos parents. Et quand on n'a pas été aimé comme il fallait quand on était petit, c'est dur, c'est parfois difficile à rattraper. Ce premier regard, le regard maternel, il est plein de dévotion. Le deuxième regard regarde la façon dont l'enfant regarde le monde. C'est le mystère des nouveau-nés, des bébés, des tout-petits. Qu'est-ce qu'ils voient ? On ne demande pas s'ils voient des couleurs ou pas des couleurs, mais qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Comment déchiffrer, interpréter justement son regard ? De quoi a-t-il besoin ? Que lui manque-t-il ? Comment le satisfaire ? Et puis, assez vite, quand l'enfant grandit, d'abord au sein de la famille, à l'égard des frères et sœurs, mais plus largement de tous ceux qui passent, la maman voit la façon dont l'enfant regarde les autres. Elle voit très vite s'il est plutôt jaloux ou généreux, envieux ou bienveillant. Quelle joie pour une maman quand son enfant est attentif aux autres.
Et particulièrement, bien sûr, aux plus pauvres.
Quelle fierté lorsque son enfant choisit de donner une pièce qu'il avait pour s'acheter des bonbons, qu'il préfère la donner à un pauvre mendiant. Et pour Marie, ça a été une joie incomparable, une joie infinie de voir de quelle façon Jésus regardait les autres. Il faut pouvoir l'imaginer, le contempler. Plus que la fierté, c'est la contemplation de Marie, la façon dont Jésus regardait les autres, sa bonté, sa bienveillance, sa patience, véritablement résonnait en elle ces phrases. Il sera grand. Oui, c'était ça sa grandeur. Il sera appelé fils du Très-Haut, celui qui fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Enfin, le troisième regard, la maman, elle voit aussi la réciproque. La façon dont les autres voient ou regardent son enfant. Quand l'enfant a un handicap, quand l'enfant a des difficultés, quand l'enfant gêne, c'est terrible. Marie a vu la façon dont les autres ont regardé Jésus. Elle avait été prévenue d'emblée que ce serait une grande souffrance. Et ça l'a été. Ça s'est manifesté tout de suite. On peut même dire, même avant sa naissance, quand il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et puis de façon terrible, c'est ce que nous rappellerons dimanche prochain, après la visite des mages, quand Hérode a voulu le faire périr. Voyez ces trois regards, parce que ces trois regards, nous les vivons entre nous. Nous les vivons en famille, dans l'amitié, dans les relations fortes que nous avons. Ce premier regard qui est une source de joie, le regard d'amour et de tendresse que nous pouvons poser sur les plus proches, sur ceux qui comptent pour nous. L'inquiétude ensuite, qui vient souvent de la façon dont la personne qu'on aime réagit, regarde le monde. Pensez à ceux que vous aimez. Pensez à votre tristesse quand ils sont jaloux, quand ils critiquent, quand vous leur dites qu'ils voient uniquement le mauvais côté des choses. Vous dites, laisse, fais pas attention. Et puis il y a le pire, c'est quand les autres n'aiment pas ce que vous aimez. Le pire pour une maman, c'est d'entendre du mal. C'est d'entendre des critiques sur son enfant. Voyez à quel point la Vierge Marie, bien sûr, elle est la mère du Sauveur, elle nous fait comprendre le regard de Dieu sur nous. Dieu nous regarde chacun avec une tendresse infinie parce qu'il nous a donné la vie. Tu es mon enfant, bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Dieu est le Père de tous. Il voit de quelle façon nous nous comportons entre nous. Comment nous nous considérons, comment nous regardons entre nous, comment nous traitons. Il se désole de nos jalousies. Il s'attriste profondément de nos manques d'amour. Il se désole chaque fois que qui que ce soit nous manque de respect. C'est à moi que vous l'avez fait. La tradition dit que les parents de Marie s'appelaient Anne et Joachim, ou Joachim. Mais en tout cas, la maman de Marie s'appelait Anne. C'est le nom de la mère du prophète Samuel. C'était dimanche avant-hier la première lecture qui en parlait justement, la façon dont Anne a consacré son fils Samuel, l'a offert au Seigneur. Et on peut relire le début du livre de Samuel parce que son cantique d'action de grâce de Anne, la mère de Samuel, a inspiré bien sûr la Vierge Marie, le Magnificat. Mais au tout début, Anne était très malheureuse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle pleurait, d'autant que la deuxième femme de son mari, Elkana, se moquait d'elle. Vous savez, c'est toujours la même chose, la double peine, lorsqu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir et qu'en plus, les autres en rajoutent une couche. Comme Élisabeth. Élisabeth, non seulement elle n'avait pas d'enfant, mais on l'appelait la stérile. Et le mari d'Anne, il a une réaction magnifique. Il dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que mon amour pour toi ne suffit pas? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 enfants? Est-ce que mon amour pour toi ne suffit pas? C'est la question que Dieu me pose chaque fois que je suis en pétard. Il me dit, eh ben non, ça ne suffit pas. Et ça, Dieu le sait très bien. Ça ne suffit pas toujours. Et la prière de Anne a d'ailleurs été exaucée parce que Dieu sait que nous avons besoin de l'amour des autres. Nous avons besoin de regards bienveillants, nous avons besoin de vivre en paix. Nous savons que le regard des autres, c'est une des conditions essentielles de la paix. C'est aujourd'hui une journée mondiale de prière pour la paix. Quand l'ange a annoncé à Marie qu'elle allait être la mère du Seigneur, on peut imaginer le bouleversement, toutes les pensées qui l'ont agité. Eh bien, parmi toutes les pensées qui l'ont bouleversée, il y a eu évidemment, forcément, l'impact social, ce que les autres allaient en penser. Bien sûr que Marie s'est demandé ce que les autres allaient dire, allaient penser. D'abord, à commencer par Joseph. Ce n'est pas un péché de se demander ce que les autres pensent. Comment ils regardent? C'est le minimum de sens social et de responsabilité. C'est pas, la liberté ne consiste pas à ne pas regarder ça. C'est de ne pas en être esclave. Maître, tu ne te laisses influencer par personne. C'est ce qu'on reconnaît à Jésus. Mais tu sais très bien ce que les autres pensent. Nous sommes des êtres de relation. Dieu nous voit dans nos relations les uns avec les autres.
Il nous voit, et d'abord, fondamentalement, il nous aime tel que nous sommes. Il voit comment nous regardons les autres. Tantôt il s'en réjouit, tantôt il s'en désole. Et il voit comment les autres nous regardent, comment nous sommes traités. Il savait comment son fils allait être accueilli. Et pourtant, en plein accord avec lui, dans la communion absolue de la Trinité Sainte, il s'est fait l'un de nous pour nous apprendre à vivre en paix. Marie a pensé tout de suite à l'effet que ça ferait, à l'image que ça allait donner. Sinon, son choix n'aurait pas été libre. Sinon, son accord n'aurait pas été donné en connaissance de cause. Si vous voulez, on ne traite pas ce sujet, mais si vous voulez lire un excellent livre sur Marie, c'est un livre de Pierre Clavry, l'évêque de Rouen, qui a été fait partie des martyrs béatifiés, des martyrs d'Algérie, qui a été béatifié le 8 décembre. Il écrit une retraite qui s'appelle Marie la vivante, c'est somptueux. Mais c'est dans un autre livre de retraite qu'il a écrit sur saint Paul, un amour plus fort que la mort, que j'ai trouvé la clé de compréhension. Où il dit à un moment, justement à propos du mystère de la croix chez saint Paul, « La croix est l'abandon total de toute prétention. » C'est ça le mystère de la croix. Sur la croix, le Christ ne prétend plus ni être roi, ni être prêtre, ni être prophète. L'abandon total de toute prétention. C'est ça la réalité de l'amour. La réalité la plus grande de l'amour, quand le regard de la personne qui nous aime est plus important que tout le reste. Plus important que le regard des autres. Et c'est ça la clé de la conversion vécue par saint Paul. Jusqu'alors, il était attentif, justement, trop attentif, trop soucieux de l'approbation d'autrui, du respect de la loi, des pratiques sociales. Trop réglo, trop nickel, trop bon pratiquant. Et il ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ, pourquoi ça ne pouvait pas remplir sa vie. Marie a choisi. Marie a choisi librement. Son consentement à Dieu, c'est l'abandon total de toute prétention. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est ce qu'elle nous dit. C'est ce qu'elle dit à Dieu. Ton amour me suffit.